Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Donc, au nom de l'Université de Mons, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle Histoire de la médecine. Alors, le temps passe, c'est déjà la quatrième, c'est l'avant-dernière. À chaque fois, on a abordé des sujets très, très différents. Aujourd'hui, on va aborder un sujet totalement inédit dans notre série, puisqu'on va parler de la façon de raconter le cancer au XVIIIe siècle et du traitement par la ciguë. Et donc, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Daniel Droix, qui est chargé de cours en fait honoraire à l'ULG, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, qui est secrétaire de la Société wallonne de l'étude du XVIIIe siècle et membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Voilà, j'ai pris mon petit papier pour être sûr de ne rien oublier. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de l'Extension et de CITEC 2 qui organisons ce cycle. Et voilà, je vous laisse la parole. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci beaucoup. Ces locaux me sont plus familiers qu'on ne pourrait le croire. Mais je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais autrefois, je suis venu faire ici, il y a 25, 30 ans peut-être, une série de microfilms de vos collections précieuses. Et puis voilà, ça dort maintenant un petit peu dans mon garage. En espérant que la Société wallonne d'études du XVIIIe siècle, qu'on a bien voulu mentionner, s'agrandisse. C'est toujours mon intention quand je vais en Wallonie, et que certains reprennent un peu le type de travail que nous accomplissons, et surtout qui porte surtout sur le XVIIIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Je dois aussi, comme vous l'avez compris, préciser, souligner que je ne suis pas ni médecin et que je m'occupe de ce problème de traitement du cancer pour des raisons un peu accidentelles, si on veut. Pas personnelles, mais ayant travaillé sur un sujet voisin, je me suis dit que ce dont je vais vous parler offrait un certain intérêt. On va voir. Et voici. À la fin du mois d'août 1760, Diderot s'inquiétait de la santé de Sophie Volant, son amie, et lui écrivait « Vous vous portez donc bien, point de mal au sein, plus d'enflure aux jambes, plus de lassitude, cela est bien heureux. » Il revenait sur le sujet un peu plus tard, en disant « Il y a longtemps que vous ne m'avez rien dit du bobo. Avez-vous entendu parler des pilules de ciguë? On leur attribue des prodiges dans toutes les maladies d'obstruction. Loupe, glande engorgée, tumeur cancéreuse, etc. » Diderot. La suggestion du remède se référait au bruit provoqué peu auparavant, en juin 1760, dans le journal de médecine. On y rendait compte d'un petit livre, Libellus latin, publié la même année à Vienne, et qui avait été traduit aussitôt en français, sous le titre suivant. Dissertation à l'usage, sur l'usage... Est-ce moi qui fais tout ce bruit là, oui ? En général, je suis moins bruyant, mais peut-être que je vais le mettre sur le côté. Dissertation sur l'usage de la ciguë. Ah, c'est là. J'ai un trop gros coup. Dissertation sur l'usage de la ciguë, dans laquelle on prouve qu'on peut non seulement la prendre avec sûreté, mais encore qu'elle est un remède très utile dans plusieurs maladies dont la guérison a paru jusqu'à présent impossible. Et donc, voilà d'ailleurs cette dissertation. Un autre périodique médical, la Gazette salutaire, qui était imprimée dans le sud de la Belgique et qui était, de la Belgique actuelle, et qui était le deuxième grand périodique médical de langue française, la Gazette salutaire, va aussi rappeler comment l'idée de faire de la ciguë un très grand remède avait déjà donné lieu à quelques expériences assez heureuses, quand on apprit que M. Storck, ou Störck plus exactement, célèbre médecin de Vienne en Autriche, avait conçu de son côté le même projet, avait eu le succès le plus complet de ce remède si nouveau et si inattendu, pour fondre différentes sortes de tumeurs. Je passe sur la personnalité de ce monsieur Störck, qui était, pour schématiser, un jeune et brillant médecin, était encore très jeune à l'époque, qui avait été un élève de Gérard van Swieten, qui avait apporté de l'aide à Vienne l'enseignement d'un des grands maîtres de l'époque un peu antérieure, Hermann Bourave. Et en effet, Monsieur Störck annonçait une magnifique découverte dont tout le monde s'empressa de profiter, dit un journal. Dès lors, en moins d'un mois, je cite le journal, « toutes nos campagnes ne pouvaient plus fournir assez de ciguë, parce qu'on s'est cru obligé d'en semer en divers endroits. » Tout le monde récoltait de la ciguë. Le journal conclut, « ce poison si fameux par la mort de Socrate, dont le suc glaça si promptement le sang du plus sage des Grecs, se voyait dépouillé de sa funeste activité. » Ainsi fut enclenché, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur la Gazette salutaire sud de la Wallonie, découvert un des épisodes les plus stupéfiants de l'histoire de la médecine du XVIIIe siècle. Car en effet, la découverte de Störck suscita un enthousiasme général, des polémiques. Un des spécialistes français de l'histoire de la médecine, qui a écrit un livre sur, qui s'intitule « Les cellules folles », un ouvrage qui remonte maintenant une vingtaine d'années, dit « les médecins de tous les pays s'empressèrent d'en faire usage et la cure de Störck, qui s'étendit au monde entier, connut un succès immense au point qu'on put croire un instant que le mal était jugulé. Mais les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances. » C'est vrai, mais le directeur du journal de médecine de Paris, le premier grand journal de médecine, lança un appel à ses lecteurs en leur demandant de communiquer les expériences qu'elles pourraient faire avec que les lecteurs pourraient faire avec la ciguë. Et les réponses sont venues de toute la France. Elles atteignirent plusieurs dizaines. Dans ces réponses, ces observations, on trouve une grande variété de sentiments, d'expressions d'angoisse, de souffrance. Et l'aspect le plus tonique, c'est tout de même la recherche obstinée des médecins qui écrivent, car ce sont les médecins qui rendent compte, j'ai fait l'expérience de la ciguë avec telle personne, etc. C'est la recherche obstinée pour trouver un remède ou pour adoucir ses douleurs. On pourrait souligner que ces observations des médecins, qui sont souvent des médecins de campagne, qui ne sont pas rarement de grandes personnalités, à part quelques-unes, expriment un mouvement plus général qu'une personne, une chercheuse française, a étudié, et je la cite, elle s'appelle Rosalind Ray, car elle-même est morte d'un cancer très jeune, après avoir écrit sans doute les ouvrages les plus importants sur l'histoire de la maladie au XVIIIe siècle, maladie en général. Rosalind Ray. Enfin, qui dit que il y a dans le cours du XVIIIe siècle le retour à un certain hippocratisme, c'est-à-dire à une observation rigoureuse des faits. Je la cite, déprise de toute idée de système, une approche médicale qui fait avec candeur l'histoire exacte des maladies au lit du malade. Et je crois que ces textes, donc toutes ces observations, s'inscrivent dans, d'une certaine manière, dans ce mouvement. L'idée m'est donc venue de, d'abord, les rassembler, hein, et puis de voir ce qu'elles exprimaient de façon générale. Pour ça, j'ai dû d'abord, et c'est ce qui paraîtra dans le livre que je suis en train d'écrire depuis longtemps, 2 ans, qui n'arrivera peut-être pas à maturité, m'informer sur ce que c'était que le cancer au XVIIIe siècle. Alors, je cite ici un spécialiste du sud de la France, il dit, voilà, le cancer, c'est ce qui apparaît quand une tumeur s'installe, quand une humeur, une des humeurs traditionnelles qui forment le monde et l'homme, s'amasse et forme un volume contre nature dans un espace limité. Vous allez me dire, tout ça ne nous mène pas encore très loin, mais, comme le souligne un de ses collègues, d'ailleurs, de la personne que je cite, il y a là un ensemble dont la cohérence et les emboîtements entre le microcosme de l'individu et le macrocosme assurent une pérennité indéfinie. Qu'est-ce que le cancer à l'époque ? Je fais pas trop de bruit, hein, un peu, hein. Je me fie ici aussi à quelqu'un avec qui je suis en rapport actuellement, à qui j'ai osé soumettre mes premières pages, qui est le professeur Jacques Rouesset de l'Académie de Paris, et qui a trouvé que ce n'était pas, c'était lisible, et que, enfin, il a été trop aimable à mon avis. Donc, Monsieur Rouesset cite un certain nombre de textes. Par exemple, il commence avec le dictionnaire d'Antoine Furtière, à la fin du XVIIe siècle, de l'âge classique. Et voici la définition du cancer que reproduit Monsieur Rouesset. C'est une maladie qui vient dans les chairs et qui les mange petit à petit comme une espèce de gangrène. C'est une tumeur dure, inégale, raboteuse, ronde et immobile, de couleur cendrée, livide ou plombine, environnée de plusieurs veines apparentes et tordues, pleine d'un sang mélancolique et limoneux, qui ressemble, ça c'est le cancer, au poisson appelé cancer ou écrevisse. Elle commence sans douleur, cette affection, et paraît d'abord comme un pois chiche ou une petite noisette, mais elle croît assez vite, devient fort douloureuse. Les cancers viennent aux parties glanduleuses et lâches, comme les mamelles ou les émonctoires. Les émonctoires, ce sont, de façon générale, les glandes qui servent à la décharge des humeurs. Le dictionnaire de Trévoux, en 1721, ça, je crois qu'on ne l'a pas remarqué, reprend dans des termes très proches la description que je viens de lire, hein, et la notice du Trévoux est reproduite presque exactement dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, en 1751. Ce qu'ajoutent les deux dictionnaires, unanimement si on veut, c'est ceci. Ce mal, le cancer, vient principalement aux femmes, à celles qui sont stériles ou qui vivent dans le célibat. Les hommes en sont aussi attaqués, et il y en a bien des exemples. La raison pour laquelle le cancer s'attache plutôt aux mamelles qu'aux autres parties du corps vient de ce qui est en pleine de glandes, entre lesquelles il y a beaucoup de vaisseaux lymphatiques ou sanguineux, la moindre contusion, compression ou piqûre peut faire extravaser ces liqueurs qui s'aigrissent et forment le cancer. Ici, il y a un nouvel élément qui intervient. Parfois, quand j'ai parlé de ces définitions, l'une ou l'autre personne aujourd'hui, les personnes sont étonnées qu'on emploie déjà, qu'on connaisse déjà à l'époque la notion de cancer. Mais en réalité, non seulement on connaissait depuis l'Antiquité, on emploie le terme équivalent à cancer, hein, chez Hippocrate, chez Galien, etc., mais aussi on avait très bien compris assez vite que la lymphe jouait un rôle important. Et le premier qui découvre ça, c'est au milieu du XVIIe siècle, quelqu'un que je connais très bien parce que je me suis occupé de l'histoire de la linguistique en Europe, et c'est quelqu'un qui est connu essentiellement comme linguiste. C'est d'ailleurs un Scandinave, c'est un Suédois, qui est une gloire nationale là-bas. C'est Olof ou Olaus Rudbeck, hein, qui a écrit des tas d'ouvrages sur toute l'ancienne littérature du Nord, etc., mais aussi qui s'est occupé et qui a découvert ce qu'était la lymphe, qui en donne, en 1651, une description. Et les auteurs que je cite, dont M. Rouesset, par exemple, que j'ai cité, disent qu'il s'agit là, la découverte, d'une révolution qui restera au cœur de la cancérologie jusqu'à la naissance de l'anatomie pathologique au début du XIXe siècle. Alors, je vais juste, oui, pour donner quelques repères, dire qu'au XVIIIe siècle, bien entendu, ce qu'on avait découvert au milieu du XVIIe, on le connaissait, il y a un auteur qui a surtout développé la notion de lymphe, c'est un médecin qui s'appelle Ledran, qui était chirurgien en chef de l'hôpital de la Charité à Paris. Donc, les chirurgiens, à l'époque, prennent de plus en plus d'importance par rapport aux médecins et revendiquent d'ailleurs un statut qui est différent de celui qui leur était en principe réservé. Le chirurgien, et ça intervient dans ce que je vais dire, est celui qui s'occupe de la maladie du point de vue externe, qui intervient d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que le médecin a pour privilège le traitement interne, intérieur de la maladie. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais comment est-ce qu'on traite alors un cancer du sein, quoi ? Ben, c'est une des questions que je n'ai pas encore résolues, d'ailleurs. Et à mon avis, au XVIIIe siècle, les chirurgiens sont devenus si importants qu'ils ne prennent même plus de liberté avec la règle pour traiter de la même manière, comme on va le voir. Ledran, donc, je ne sais pas ce que j'ai. Parfois, j'aime encore bien les. Oui. Alors, je vais commenter quelques images que j'ai passées sous silence. Préparatif pour l'opération d'un malade atteint d'une loupe. La loupe, ce n'est pas un cancer. Mais le XVIIIe siècle va confondre volontiers un certain nombre de choses avec ce qu'ils appellent le skir, c'est-à-dire un cancer à ses débuts qui peut encore être soigné, qui n'est pas qu'on peut encore soigner par fondants, par des matières qui vont le dissiper, qui vont le. Mais on confond aussi, donc, sous l'étiquette cancer, parfois les loupes, voilà. Moi, j'en avais jamais vu, mais là, le monsieur, ben, il s'est fait opérer une loupe. Ou les écrouelles, par exemple. Vous savez, ce qui était soigné, soi-disant, par imposition des mains par les rois. Et les écrouelles offrent beaucoup, quand on voit les descriptions, d'ailleurs, assez dures des écrouelles, à quel point ça ressemble à un cancer qui est ulcéré. Alors vous allez voir, ils font la différence entre le cancer qui est occulte, à ses débuts, pourrait-on dire, qu'on peut encore essayer de traiter, et celui qui est ulcéré. Alors quand ils donnent les définitions d'un cancer ulcéré, c'est-à-dire que ça se lit lentement, pour le moins. D'ailleurs, voici dans l'encyclopédie, le cancer ulcéré est manifeste. Donc ça, c'est le plus grave, le stade. Il se connaît en ce qu'il est inégal, raboteu, plein de trous, qu'il sent extrêmement mal, qu'il en sort une matière sordide, puante, gluante, quelquefois jaune. Se manifeste par la douleur insupportable qu'il cause aux malades, auxquels il semble qu'on le pique avec un millier d'épingles. Je vais arriver à cette représentation dans l'encyclopédie. Voilà ma gazette salutaire d'où j'étais parti, qui m'a entraîné bien loin. Voici ce qu'on trouve partout, la théorie humorale, avec les quatre qui répondent aux quatre éléments, et qui se mélangent de manière différente chez les individus, qui fait qu'ils sont soit mélancoliques, soit plutôt joyeux, s'y combinent le chaud et le sec, par exemple, etc. C'est des choses que vous trouverez sans problème sur les sites dédiés. Voici les observations de chirurgie de Ledran, 1731, donc. Et voici d'ailleurs la planche du cancer du sein dans l'encyclopédie. Alors, ce qui est en haut à droite, c'est le cancer occulte de la mamelle. Alors, il est occulte, mais il est bien visible. Et puis, on voit la cicatrice qui reste après l'extirpation, en dessous. Et puis, un autre cancer qui occupe toute la mamelle, alors, et dont on fait l'extirpation avec succès. Et l'extirpation avec succès, c'est à droite, en dessous, et c'est l'extirpation totale. Comment est-ce que M. Sturck envisageait de soigner la maladie? Avec de la ciguë qui était préparée de diverses manières. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais parfois, on place la plante séchée dans un sac de toile qu'on met dans de l'eau bouillante. Au fond, on fait des fumigations. Parfois, on pratique par infusum, par perfusion. On décante la substance de la ciguë, on l'injecte dans la fistule, dans le cancer ouvert. Mais le plus souvent, et ça c'est vraiment ce qui pose problème, on emploie l'extractum, l'extrait de ciguë, et on en fait des pilules. Et donc, on fait ingurgiter ces pilules, ce qui n'était pas permis en principe aux chirurgiens. Chirurgiens en principe, mais ils le font. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais ils le font. Et un des aspects de cette préparation en pilule, que je développerai dans le livre, ça c'est au moins une partie qui est faite, c'est que ça a été massivement employé là où il y avait des réunions des collectivités. C'est-à-dire, dans les prisons, on administrait aux prisonniers, quoique parfois les autorités s'y opposaient pour les droits, au nom des droits des prisonniers. Hein, le célèbre Lenoir, qui était un officier de police, le chef de la police à Paris, qui traquait, il est bien connu des historiens du livre, parce qu'il traquait les mauvais livres, etc., eh bien, il s'oppose à ça. Il dit, on n'a pas le droit de faire ça, de prendre les prisonniers comme cobayes. Hein. Mais il y avait des endroits où c'était plus facile, c'est l'armée. Parce que là, à l'armée, on avait beaucoup plus d'autorité, on avait aussi un suivi plus important, hein, on pouvait. Dès lors, on pourrait montrer que cette préparation à la ciguë, vous ne le verrez pas malheureusement, mais c'est surtout développé dans les hôpitaux militaires. Alors, j'ai tracé une carte que j'ai oublié de scanner, des hôpitaux qu'il a pratiqués, et c'est une découverte, c'est découvrir l'Amérique, c'est que les hôpitaux militaires, ben, ils se trouvent aux frontières. Ils se trouvent aux frontières du Nord, là, à partir de Calais jusque vers l'Allemagne, voilà. Et bien là, on emploie beaucoup, mes correspondants, si j'ose dire, les observateurs, emploient beaucoup la ciguë, hein, pour, avec les soldats. Ou bien le long, un peu moins, mais le long des Pyrénées aussi. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui est intéressant de mettre sur carte. Alors, la question qui se pose donc, c'est une dame ou un homme qui a qui éprouve comme ça un grossissement d'un organe, ou enfin qui se, les gens se rendent compte, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien ils ont mal à un moment, trop mal. Qu'est-ce qu'ils choisissent? L'extirpation ou un médicament? Alors, il y avait un médicament traditionnellement qui était utilisé, c'était la belladone. Et la belladone, c'est aussi un poison. Mais dès l'Antiquité, on se servait de la belladone pour apaiser les douleurs de quelqu'un qui était cancéreux. Et au XVIIe et XVIIIe siècle, on exploite de plus en plus la belladone. Il y a même un médecin qui est très connu, parce qu'il est appelé pour soigner une reine de France qui a un cancer, et il lui donne de la belladone, et il lui donne quelque chose qu'il a préparé d'ailleurs lui-même, qu'il ramène d'Amérique, parce qu'il avait été, il avait fait, il avait travaillé en Amérique, quelque chose qu'il avait en quelque sorte emprunté aux Indiens. Malheureusement, la reine, c'était qui encore? Hein? Quoi? C'était Anne d'Autriche, oui. Je crois, je ne sais plus maintenant. Enfin, je dois l'avoir ça quelque part. Oui, c'était la femme de Louis XIII, non? Hein? Le bonhomme s'appelle Gendron, d'ailleurs, comme beaucoup de. Aujourd'hui, il y a des tas de Gendron au Canada. Et donc lui, par exemple, il utilise ça. Alors, le cancer du sein est l'objet principal. Parce que, comme on le dit là, à un moment, il y a des cancers pour d'autres organes, évidemment. Pour les hommes, d'ailleurs, j'ai quelques cas là, de cancer de la langue, par exemple, très souvent. Peut-être. Je sais pas, j'avais même pas pensé, oui, en fait. Mais c'est frappant à quel point ça intervient souvent. Mais c'est surtout le cancer du sein. Et, ah oui, voilà, un autre aspect, c'est un auteur que j'ai découvert en faisant cette conférence, d'ailleurs, Heister, Lawrence Heister, institution de chirurgie, 1770. Et on voit que c'est le même type de gravure que dans l'encyclopédie, avec quelques outils. Je pourrais vous lire la manière dont on s'en sert, mais bon, je sais pas, peut-être pas. Alors, oui, ça, c'est, alors pourquoi j'ai mis ça? C'est que Hérodote cite le cas de la première femme, on peut dire, qui a été atteinte du cancer du sein. Il s'appelle Atossa. Atossa, qui était donc de la famille de l'empereur du grand Cyrus, Cyrus le Grand, et précisément, c'est un des personnages, pour ça que je l'ai pris, des Perses d'Échille, Atossa. On discute aussi, aujourd'hui beaucoup, on discute, surtout les Américains, sur certains sites, sur la réalité du cancer de cette Atossa. Il y a un autre cas que l'on discute beaucoup, c'est celui-ci. C'est la peinture de Rembrandt qui représente Bathsheba Aubin, qui est au musée du Louvre. Alors, j'ai vu que un chirurgien italien, voyant la peinture, l'avait vu d'ailleurs à Amsterdam, a observé, dit-il, une certaine asymétrie dans les seins et a supposé que, en s'informant, il a vu que la personne qui était représentée, qui est la maîtresse de Rembrandt, avait été morte peu après. Hein, peu après. C'était Hendrik Stoffels, et il a lancé la supposition qu'elle était morte d'un cancer du sein. Et on a, alors, ça remonte à quelques années, même à quelques dizaines d'années, mais on discute encore beaucoup aujourd'hui de l'hypothèse, quoi. Voilà. J'ai vu ça dans les journaux médicaux, notamment américains. Mais c'est pas, ici, c'est Bathsheba Aubin. Alors, je savais pas qui était Bathsheba, c'est quelqu'un. C'est la belle dame que le roi David découvre du toit de son palais, alors qu'elle prend son bain, précisément. Et c'est, en effet, j'aurais dû le savoir, un sujet de peinture très courant à la Renaissance, et même par la suite. Par exemple, chez William Blake, que j'aime bien, que j'ai chez moi, mais je n'avais pas fait le rapport. Je passe un peu sur ce que certains... Voilà aussi quelqu'un qui parle aussi de la belladone pour soigner, et c'est Jérôme Mercurial, italien, dans son traité des maladies des femmes. Il y a plusieurs, toute une tradition d'ouvrages sur les maladies des femmes. Et celui-là, je crois, le plus ancien. Et alors, il dit, lui, ça je retiens quand même, que les femmes qui ont un cancer du sein souffrent surtout par l'abondance de lait qui leur donne de l'inflammation, et il laisse un peu ouverte la question de savoir si dans quelles conditions cette abondance de lait est néfaste et maladive. Et c'est un problème qui va se poser, mais je vais peut-être aller un peu plus vite sur cette question-là. Pour répondre au fond à la question qui se pose, la belladone ou la ciguë, avec tout ce que ça implique, parce que la ciguë, alors là j'ai des tas d'exemples, j'espère avoir l'occasion d'en lire quelques-uns, où les dames hésitent beaucoup, ne veulent pas risquer leur vie avec la ciguë, et puis rechignent à subir l'opération. Et on les comprend. J'ai plusieurs descriptions, mais j'en ai retenu une qui est assez neutre, qui vient d'un dictionnaire de chirurgie, d'un certain Thomas Levaché, 1767. Alors, il dit ceci, je crois qu'il faut le dire. L'opération d'extirpation comporte très peu de peine, quand la tumeur est de la grosseur d'une noix seulement, ou tout au plus d'un œuf. Dans les observations qu'envoient mes médecins, la qualification de la tumeur, la grandeur, c'est toujours ça, quoi. C'est une noix, ou bien c'est un œuf, ou un œuf de poule, ou un plus gros œuf. Enfin, il y a vraiment une espèce de, je n'ose pas le terme, de calibrage qui est sévère. Mais l'extraction est plus compliquée quand la tumeur est trop petite, quand même, ou quand la glande est trop enfoncée, car il faut se servir d'une pince ou d'une espèce de tenette. La tenette, c'est une pince dont on servait pour extirper un calcul, avec des branches courbes et pointues. Mais la maîtrise du chirurgien, dit donc Thomas Levaché, s'exerce surtout quand une mamelle est cancéreuse en entier. Il s'agit alors de placer le praticien et sa patiente dans une position qui soit commode. Je vous lis les quelques lignes. On la fait mettre sur un lit à demi couché, à la renverse, et au jour. On lui fait lever le bras du côté malade, et on le lui fait porter en arrière, afin de faire saillir davantage la tumeur, et que le muscle pectoral se retire un tant soit peu. Le chirurgien prend ensuite une plume chargée d'encre. Il trace une ligne autour de la tumeur pour diriger sa section. Puis il saisit d'une main la tumeur, ou bien la traverse d'une aiguille, ça c'était l'ancienne main, la traverse d'une aiguille enfilée d'un cordonnet pour former avec ce cordonnet une anse, au moyen de laquelle il puisse soutenir la masse cancéreuse et l'approcher en avant. On le dit toujours, on la soulève, pour la soulever, il faut ce fil avec cette... Après quoi, prenant le rasoir qu'il a bien affermi dans sa chasse, il y a aussi toute une technique, toute une maîtrise de l'outil qui est très importante, hein, il fait avec promptitude l'incision suivant la ligne qu'il a décrite autour de la tumeur. Il abaisse la mamelle et la dissèque au plus vite avec le muscle pectoral. Il dit, cette opération se fait communément avec assez de facilité quand on va vite. Et d'autres personnes, dont ce Hester que je vous, dont je vais montrer le livre, donnent aussi des détails et même donnent de nouveaux outils qui permettent de pratiquer plus facilement. Mais je n'ai pas malheureusement, enfin, ou heureusement, le temps de le de développer. Là, une deuxième question qui se pose, c'est le choix ou du médecin ou du chirurgien. Non ? Et comme je vous ai dit, en principe, le chirurgien n'a pas le droit de pratiquer en donnant, par exemple, des pilules de ciguë. Mais ça se fait tout le temps. J'y vois une raison. En principe, les sphères d'intervention médicale avaient été fixées de tradition au XVIIe siècle, mais la barrière avait été abolie en 1719 par un traité de Versailles, ou le statut de Versailles, qui permet aux chirurgiens de traiter aussi les affections internes comme externes. Alors, les historiens de la médecine connaissent ça très bien, notamment les Anglais qui sont supérieurs dans le domaine, ou les Américains, il faut bien le dire, qui sont beaucoup plus avancés. Ils vous expliquent que les médecins, le corps médical, les médecins ont réagi évidemment. On leur enlevait un privilège, voilà. De sorte que la mesure d'ouverture a été retirée dès 1723. Et c'est alors l'autre corps, les chirurgiens, qui protestent et qui font qu'on revoit encore la règle en 1730. Ce que j'imagine, c'est que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle où je suis, les chirurgiens avaient intégré l'ancien droit qui leur était accordé et ne se posaient pas trop de questions sur la légitimité de ce qu'ils opéraient. Un autre problème qui se pose, c'est de trouver, si on choisit l'excision, le chirurgien. Alors, j'ai un cas ici d'un docteur donc, qui envoie une de ses lettres, de ses observations au journal de médecine. Le docteur s'appelle Marteau et il travaille à Aumale. Donc, en Normandie, si je me souviens. Et il doit soigner une demoiselle de Fautereau, qui a un cancer du sein. Et on voit toutes les questions qui se posent. Le médecin, parce que c'est un médecin qui dit qu'il faut extirper, lui dit, ça va être compliqué parce que on n'en trouve pas qui soit suffisamment bon dans la région. Alors certains érudits français, Monsieur Goubert notamment, a étudié le nombre de médecins et de chirurgiens qu'on trouvait dans telle région de France. Et là, on peut comparer ici ce qui est dit. Hein. C'est que la malade aussi, mademoiselle là, de Fautereau, avait souffert de deux voyages. Alors on nous raconte tout. Accompli pendant l'été, elle avait couvert plus de 60 lieues, donc plus de 300 kilomètres. Et ça l'avait beaucoup affectée, déjà elle avait cette affection. Hein. Dès lors, dit le médecin, elle est absolument hors d'état de soutenir le chaos d'une voiture dans un pays où les chemins sont impraticables. Donc elle ne pourra pas les chercher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le faire venir, sans doute cette demoiselle de Fautereau habite maison, on dit même un château, mais ça va coûter très cher. Et de faire venir un chirurgien. Et puis finalement, je ne sais même plus ce qu'on décide pour cette. On décide de lui donner de la belladone, parce que vraiment c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Dans quelle mesure la lactation agit-elle davantage chez telle ou telle personne? De tradition, et ça remonte aux Écritures, le cancer du sein intervient surtout chez les femmes qui n'allaitent pas, donc chez qui se concentre, il s'agrège, le lait. Hein. On invoque d'ailleurs la tradition, un proverbe de l'Écriture qui dit. Les choses contraires viennent des péchés. Et c'est un péché, en effet, de ne pas allaiter, parce que Dieu a donné, je suis d'accord, a donné des mamelles aux femmes pour qu'elles s'en servent. Si elles ne s'en servent pas, c'est une faute. Et parmi ces femmes, les plus coupables sont les femmes de la noblesse, parce qu'elles ont elles ont des nourrices. Elles donnent l'enfant a des nourrices. Et donc, elles ont plus de cancer. Il paraît que, dans une certaine mesure, on a pu le quantifier. Quoi. Ça semble assez juste. C'est d'ailleurs un homme, j'en rencontre des gens dans cette aventure, c'est sûr, des érudits, des chercheurs extraordinaires. Un des plus extraordinaires, on ne le connaît pas beaucoup, mais il s'appelle Ramazzini, c'est un Italien, et c'est lui notamment qui dit, voilà, chez les dames qui n'allaitent pas, on a, etc. Et en même temps, pour passer son temps, il a un peu de loisir, il dit, ce qu'il faudrait faire, c'est chercher quelles sont les maladies propres à certains métiers, quoi. Et il dresse une liste comme ça, il cherche, il dresse la première liste des maladies professionnelles. Il est mort en 1714. Il faut dire que, alors, pour ceux qui voudraient chercher, il y a un beau sujet de recherche parce que son travail de 1714 est resté peu connu jusqu'à ce qu'il soit découvert par le célèbre Fourcroy en France. Fourcroy, un révolutionnaire, un esprit avancé. Et Fourcroy a donné une traduction française, mais incomplète, imparfaite. Et depuis, tout ça est oublié. Hein? C'est vous dire que j'ai bien des occasions de dévier de mon sujet, ce que je suis déjà en train de faire. Qu'est-ce que j'ai ici comme cas? Alors, une dame chez qui c'est le sevrage qui pose un problème. Elle est soignée par un docteur qui s'appelle Campardon. Et lui, on dirait que lui, c'est déjà les années 1780. On dirait qu'il s'est occupé spécialement du cancer du sein. Parce que dans le journal de médecine et dans un autre journal, il aligne toute une série d'observations sur le cancer, sur les cancers, et notamment sur le cancer du sein. Et il traite notamment un cas d'une veuve qui est un petit village de Gascogne, mais qui n'a que 28 ans. Et la jeune femme raconte, alors je cite, qu'à l'âge de 6 à 7 ans, alors qu'elle était encore chez son père, un négociant, elle avait, avait eu un clou au-dessus du mamelon droit. Le clou gonfla à la puberté. Mais un changement beaucoup plus important se produit quand elle l'a sevré, la petite fille qu'elle avait et qu'elle allaitait depuis 2 ans. C'est alors, dit le docteur Campardon, que l'infection s'accroît insensiblement. Et son diagnostic, c'est, je le cite, le diagnostic, c'est lui qui le dit, de la maladie était trop frappant pour méconnaître une tumeur cancéreuse prête à s'ulcérer. Il a écrit un texte sur une de ses malades. C'est Iline, mais c'est un des plus saisissant que j'ai rencontré. C'était écrit d'une manière. La malade était assise dans son lit, dans lequel elle n'osait presque pas se remuer, de peur d'augmenter la violence de ses douleurs par le changement de situation. Sa face était exténuée, mais pourtant animée d'une rougeur obscure et rude. Ses yeux, animés par la fièvre, ne laissait pas d'être extrêmement languissant, car elle n'avait dormi que fort peu depuis près d'un mois, c'est-à-dire depuis l'application du caustic, ça c'est là qu'on lui a appliqué, qui, en lui ôtant le sommeil, lui avait donné la fièvre qui redoublait tous les matins. Ses douleurs s'y étaient accrues, elles étaient insupportables. La malade était fort altérée, etc., etc. La cause, là on a déjà une idée de la cause avec le lait, mais à ce type de cause est associé nécessairement par une espèce de symétrie la maladie de l'utérus. Hein. Et de sorte que mes observations donne des informations très régulières et constantes sur l'état des règles. Les règles sont-elles normales? Ne le sont-elles pas? Depuis quand sont-elles interrompues, etc. Moi, je m'y retrouve pas vraiment. Je ne comprends pas toujours ce que ça veut dire. Mais manifestement, au moment des règles, le mal qu'on soupçonne cancéreux s'accroît et disparaît quand les règles sont passées. Je ne sais pas comment les vrais spécialistes pourraient apprécier tout ça. On commence aussi à penser à un autre critère. Et voici le cas c'est une dame qui s'appelle Soulès et qui est remise aux soins d'un des célèbres docteurs de l'époque, qui est le docteur Lequin, qui était à je ne sais plus, c'est pas La Rochelle, non, c'est toi. Non, je dis une bêtise, je ne sais plus où il était. Sa malade est très très indécise sur ce qu'elle doit faire. On lui découvre un cancer du sein. Elle est très effrayée, dit le docteur Lequin, des douleurs qui la suivent nécessairement, Il parle de l'extirpation et de ce que l'opération de l'extirpation avait été inutile à deux personnes qu'elle connaissait. Et elle repousse l'opération très longtemps en invoquant toujours les femmes qu'elle avait vues succomber. Hein? À un moment, elle précise d'ailleurs qu'il s'agit en fait de trois personnes de sa famille, sa mère, sa tante et une autre parente. Et le médecin, le cas, dit « Quel parti prendre contre un vice cancéreux et héréditaire ?» répandu dans la masse du sang. Quel fondant, quel médicament serait capable de détruire un pareil virus? L'opération même n'offrait pas de ressources. Alors, on peut discuter sur l'emploi du mot virus. Vous allez voir qu'à un moment, on l'emploie en effet dans un sens qui est plus moderne. Mais à l'époque, en tout cas au début du XVIIIe siècle, virus ne veut pas encore dire. Virus n'a le sens... Le sens qu'une substance, mais pas un élément qui se transmet, quoi. Mais ça va venir dans la seconde moitié du XVIIIe. J'ai un autre exemple de où l'idée d'une disposition héréditaire apparaît. Dans les observations, l'auteur de l'observation est un monsieur Vanier, docteur, professeur en médecine à Bourges. Il soigne une dame d'environ 30 ans, on ne donne pas son nom. Elle est d'un tempérament pléthorique, ce qui veut dire en réalité qu'elle est plutôt gaie, si j'ai bien compris, enfin joyeuse. Mais elle n'avait pas eu de règles depuis 2 ans qu'elle était accouchée. Et elle se trouvait affectée au sein droit d'un suintement lymphatique. Alors, vous n'avez pas parlé de la lymphe, parce que peut-être vous avez compris que c'est un des éléments qui apparaît, je vous l'ai dit, au XVIIe, et puis dans la seconde moitié du XVIIIe. Et puis, on commence à travailler sur la lymphe. Alors là, pas plus tard qu'hier, j'ai retranscrit un texte qui explique comment on savait qu'une tumeur était comportait de la lymphe cancéreuse. Hein? Monsieur Rouessier, il consacre d'ailleurs dans un livre, mon partenaire, enfin, j'ose dire, de Paris, il consacre un petit chapitre, mais j'ai trouvé un exemple qu'il n'avait pas. On la jette, quand elle est extraite, dans de l'eau bouillante. Et si l'écume qui se forme est d'un certain type, et alors je vous passe sur les détails, on coupe, etc., hein, mais si l'écume qui se forme est plus solide que dans le cas d'autres, par exemple pour des loupes et tout ça, l'écume est légère. Si elle est solide, c'est un cancer lymphatique. C'est assez... Donc ici, le sein est affecté d'un suintement lymphatique qui donne lieu à un engorgement et au risque de dégénérer. Et cette dame, cette dame d'environ 30 ans, était d'autant plus effrayée de l'augmentation de son mal qu'elle avait vu périr sa mère d'un cancer au sein 40 jours après avoir souffert l'opération. Donc elle rejette et elle adopte la ciguë. Okay. Il dit que on peut aussi concevoir qu'il y ait contagion. Alors, il y a un médecin français qui a fait ses études à Toulouse, qui obtient en 1774 le prix de l'Académie de Lyon, qui met au concours le sujet du cancer. Qu'est-ce qu'un cancer ? Comment le soigner, etc. C'était d'ailleurs pas la première fois qu'une académie mettait ce type de sujet au concours, et que ça se fasse à Lyon, ça peut s'expliquer aussi, parce que c'est une des académies qui est la plus avancée dans le domaine des sciences, et aussi c'est une académie, c'est très typique, qui est très attentive aux préoccupations du public. Elle choisit des sujets de concours, c'est ce que Daniel Roche, spécialiste de la vie provinciale en France, grand historien, signale, c'est que à Lyon, par exemple, on a pour un sujet comme celui des ballons, là, les aéronefs, etc., enfin tout ce qui est 90 réponses, par exemple. Donc, c'est une académie qui cherche volontairement à attirer le public, quoi, attirer le public, les personnes intéressées, et si elle met le cancer au sujet, c'est important. Alors, ce monsieur Périlli, il s'appelle, est très connu en France et souvent est célébré comme un des grands auteurs. Comme je lis beaucoup la documentation à la fois allemande et, enfin plutôt anglaise, mais allemande aussi, il est très contesté. Il a fait une opération qui a fait sensation. Il a extrait du sein d'une dame qui était cancéreuse un peu de, que dire, je ne sais pas comment l'exprimer, de fluide, de sérum, il a injecté à un chien pour voir l'effet. Et le chien est mort, d'ailleurs. Mais on ne sait pas s'il est mort, enfin, parce que je crois que ça s'est fait dans des conditions assez particulières. Périlli. Mais j'ai lu par ailleurs que ce Périlli n'avait rien dit d'important, que c'était un attardé. Donc je ne sais pas moi-même parfois très bien comment apprécier les gens de l'époque. Or, parmi les médecins qui envoient les observations, en voici un, Jean-Claude Rochard, il habite Meaux, il soigne une demoiselle de 18 ans, qui lui est amenée le 26 ou 27 juillet 1770. On connaît tout. On connaît les dates d'arrivée. Enfin, c'est décrit de façon, avec une précision administrative française, quoi. Elle avait la mamelle gauche très gonflée, très dure, luisante, de couleur obscure. Il dit c'est une tumeur. Et il donne d'ailleurs des détails sur le fait que cette tumeur est, il y a un lien vers l'aisselle, enfin, du même côté, etc. Il s'informe des causes de l'affection. La jeune fille lui dit qu'elle avait soigné un an auparavant une belle-sœur attaquée d'un cancer manifeste, à laquelle elle avait rendu tous les soins qu'on pouvait attendre de l'attachement et du zèle le plus infatigable. Jusque-là, jusqu'au point où, elle couchait auprès d'elle. Le médecin suppose que c'est le fait de voir coucher à côté de sa parente cancéreuse qu'elle a attrapé la maladie. Mais cette jeune fille ajoute une cause à une autre, une autre cause à celle-là. Elle avait reçu, par une malheureuse fatalité, un coup dans le sein. Or, dans la théorie oncogénétique, un coup dans le sein ou un coup sur le corps est souvent l'origine du cancer. Un coup. Ça remonte vraiment à l'Antiquité. C'est notamment le cas d'une autre personne qui est patiente du docteur Lemoine, à la ville de Quimperlé, et il soigne une dame Lecourt qui avait aussi le sein droit d'un volume effrayant. J'appris de la malade, âgée de 40 ans, qu'à la fin de 1767, les avant-coureurs d'une différente manière d'être, ordinaire à cet âge, lui avait fait éprouver les accidents qui sont les suites. On voit ce que c'est. Hein, l'accident à l'âge âgé de 40 ans. Dans ce moment où la nature, en proie à l'incertitude de l'évacuation périodique ou de sa suppression, changeait son état habituel, elle reçut au sein un coup de clé. La tension, la douleur suivirent l'événement et elle attrape un cancer du sein. Alors on attribue à ce coup, hein, même chose, plus caractéristique encore, chez Françoise Dollard, 23 ans. Elle nourrissait un garçon qui avait 15 ou 16 mois. Ça se passe à Champagnole, en Franche-Comté. Le 24, elle raconte, le 24 avril, ou plutôt le médecin, 1771, elle le faisait sauter sur ses genoux lorsqu'elle en reçut un coup de tête renversé en arrière qui porta vivement sur sa mamelle gauche. L'accident ne lui occasionna d'abord que fort peu de douleur. C'est pourquoi, dans l'habitude d'allaiter cet enfant de ses deux seins, elle continua de les lui donner à rechange. Aussi ne tarda-t-elle pas longtemps à s'apercevoir que l'affection de ces parties-là tire presque toujours à conséquence. Et en effet, on décrit une série d'une évolution accablante, hein, qui fait que, alors je ne sais pas si elle va mourir, j'ai passé ça sous silence dans ce sujet ici, il vaut peut-être mieux. J'en ai plusieurs, des cas comme ça, notamment des femmes qui sont blessées parce que l'enfant leur donne un coup. Et même, ça s'aggrave ici dans un autre cas parce que, même chose, elle reçoit un coup au sein gauche, 8 jours après ses couches, le sein s'enflamme, il devient très dur. On lui donne des pilules de ciguë. Mais, le médecin raconte, un jour que je fus obligé de m'absenter, comme j'ignorais si je reviendrais bientôt, je lui laissai quelques doses toutes séparées, de ciguë, mais cachées. Et dans l'espérance d'être plutôt guérie, elle prit, malgré ma défense expresse, 4 pilules de plus à chaque pendant 2 jours. À mon retour, je la trouvai tourmentée de vertige. Elle m'avoua ingénument son imprudence, qui fut cependant bientôt réparée en supprimant le remède pour 3 jours seulement. Alors, j'ai complètement oublié mes images. Voilà, mercurial, au fond, ça ne nous dit des choses. Les Eister, voilà Monsieur Eister. Revoici ces outils que j'aurais pu vous détailler. Et voici autre chose. Jacques Lebrun, un grand historien de l'histoire religieuse, notamment, École de pratique des hautes études, Paris, a étudié les cancers chez un certain nombre de religieuses du XVIIe siècle. C'est le seul, je crois, qu'en réalité, qui est le seul historien, à ma connaissance, qui ait pratiquement examiné des dossiers établis sur pour chacune des personnes des malades, et qui, donc, il en a tiré un très, très bel article. Et à un moment, il cite le cas d'une sœur de la Visitation de Bruxelles, qui, travaillant à la construction d'un bâtiment à Mons, se donna un si méchant coup au sein qu'il devint un chancre qu'elle tint longtemps caché, mais qui, en s'ulcérant, entraîna sa mort. Alors, Monsieur Lebrun, Jacques Lebrun, explique très bien pourquoi chez les religieuses on cache davantage, dit-il, que dans d'autres, comme le fait d'avoir un cancer, parce que c'est une punition divine ou parce qu'il y a une contagion, etc. Moi, je n'avais pas remarqué spécialement ceci, sauf que, en regardant comme tout le monde sur Internet, j'ai vu que la chapelle et le couvent des Visitandines, qui a fait l'objet, je crois, il y a quelques années, en 2011, d'un incendie, mais qui est classé patrimoine, datait du milieu du XVIIe siècle. Et je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est dans cette construction des Visitandines que ma Visitandine, j'ose dire, a eu cet accident auquel on attribue un cancer. J'ai trouvé ça ce matin. Alors, ne demandez pas plus ce que ça peut vouloir dire. Les hommes ne sont pas épargnés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Mais en matière de contusion, on s'attend à ce qu'il y en ait l'un ou l'autre. Et voici un cas typique. C'est l'objet d'un... Le malade est soumis à un médecin de Nantes. Le malade s'appelle Coche. Il est maître de navire, homme fort, vigoureux. Il montre au médecin, sur la face interne du tibia, une tumeur superficielle, large environ comme un liard, une pièce. La douleur était insupportable. L'homme expliqua qu'il avait reçu 10 jours auparavant un coup de bâton qui lui avait attiré de la fièvre et qu'il y en avait 3, donc jours, qu'il n'avait pu fermer l'œil. Des chirurgiens de vaisseau, parce que nous sommes à Nantes, évidemment, avaient saigné le malade et avaient employé sans succès les anodins, les émollients, les résolutifs, tout ce qu'on pourrait. Le docteur Vidal soupçonna dans l'affection un épanchement d'humeur, ne dit pas cancéreuse, mais enfin, et lui, il conseille l'incision. Alors, on nous donne, ça sont des détails pour les historiens des catégories professionnelles, intéressant. La vie ne plut point, n'a pas plu, aux deux chirurgiens de la ville qui refusent de faire l'opération. L'un d'eux me présenta même, les chirurgiens, d'un air railleur son bistouri, en me proposant au médecin de la faire. Le médecin l'a fait, évidemment, et avec un certain dédain sarcastique, prend congé. Alors, je vous ai dit que Jacques Lebrun, avait étudié donc ces religieuses. Or, me confirment les spécialistes, comme M. Rousset, on a observé en effet un plus grand nombre de malades chez du cancer du sein chez les religieuses. J'en ai aussi collecté quelques-uns, notamment chez plusieurs religieuses de Pau. Dans un des cas, c'est encore un autre type de cause qui intervient, mais on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. C'est une religieuse qui s'appelle Madame de Cazulon. Non, c'est celle-là, Madame de Cazulon, oui. Le traitement prend des pages et des pages, on lui donne de la ciguë, ne marche pas, puis elle se rétablit, puis si on revient en arrière, etc. On l'envoie à Bagnères prendre les bains, parce que l'eau va soigner, elle refuse d'y aller, etc. Mais, à un moment où elle était déjà très mal, une péripétie, une nièce de la malade arrive, dans un temps où elle ne l'attendait pas. Son aspect la frappe. Elle tombe dans une espèce de syncope, Revenue à elle, elle crie qu'on lui déchire l'estomac. On m'appelle, dit le médecin. Je me rends pour lui donner mes soins. Et persuadé que cette douleur énorme ne vient que de l'action du levain cancéreux, j'emploie les saignées, les adoucissants. Inutile, la tête se prend, la malade perd connaissance et expire. Mais il dit, il n'est pas douteux que si elle n'avait pas eu cette surprise d'une visite inattendue, elle s'en serait sortie. Hein? Il dit, évidemment, il dit ça parce qu'il défend la ciguë, etc. Il dit, l'extrait de ciguë avait gardé toute ma confiance. Et on observe en effet que parmi les causes de cancer, l'accident psychologique intervient. Assez souvent, la nouvelle d'un deuil, ça va de la mélancolie au stress, quoi. Et certains auteurs l'ont enregistré de bonne heure. Il y en a un dont je m'étais dit que j'allais retenir le nom une fois pour toutes, parce que il porte un drôle de nom. Il s'appelle, je sais pas, le docteur de la joie ou quelque chose comme ça. Mais alors, il donne la liste des problèmes psychologiques qui peuvent intervenir. Affliction, chagrin, tristesse profonde et permanente, tout ça rend les humeurs visqueuses et grossières, ralentit leurs mouvements, leur donne lieu de s'arrêter, de se figer ou de se coaguler. Cancer. Il y a aussi un autre, alors au-delà de ça, mais j'ai presque fini, heureusement, chez les religieuses, un autre élément qui peut intervenir. Et c'est notre auteur italien, Ramazzini, qui, dans ses maladies, dans ses œuvres médicales complètes, explique ceci. Il dit, s'il y a plus davantage de religieuses qui attrapent un cancer, je le cite, ce n'est pas à cause de la suppression des règles, mais plutôt, comme je le pense, en raison du célibat. En effet, il m'est souvent arrivé de voir des vierges vestales, des religieuses, au teint bien coloré, à l'écoulement menstruel normal, mais naturellement portées à la volupté. Je les ai vues mourir misérablement d'horribles cancers du sein. En Italie, n'importe quelle ville compte d'assez nombreuses religieuses, chez qui l'acte sexuel accompli par des vierges est rare. Donc en Italie, il n'y a pas les religieuses ne cèdent pas à. Hein? Mais dans d'autres monastères, ça se produit tout le temps. Donc c'est en Italie qu'il faut mesurer s'il y a plus de cancers du sein que dans les monastères d'autres pays. C'est quand même ouais, il va les chercher quand même un peu loin. Hein? Et plus tard, un peu plus tard, d'autres, notamment en anglais là. William Buchan parle, il énumère parmi les causes de cancer la mélancolie religieuse. Il dit, oui, elles s'imposent des mortifications inutiles. Alors j'ai encore, puis je crois que je vais quand même arrêter parce que j'ai un exemple qui m'intéresse particulièrement. Voilà. La leçon d'anatomie du docteur Tulp, de Rembrandt, qu'on connaît, hein, 1632, docteur Tulp. Alors, le docteur Tulp a été le médecin d'un grand humaniste anversois, assez particulier, dont tout le monde a ri, même Leibniz. D'abord, il portait un nom, cet anversois. Il s'appelait Goropius Bacanus, Bacon. Et Leibniz avait inventé le terme goropiser sur Van Gorp. Pour goropiser, vous voulez dire des bêtises, quoi. Notamment en matière de langue, parce que je le connais plus, d'étymologie. Il avait ce goropus mécanus, j'ai expliqué ça vainement aux étudiants de Bruxelles pendant des années, mais ça a laissé un souvenir chez une personne. Chez l'écrivaine belge, Amélie Nothomb, qui prétend s'en souvenir, je ne sais où, que je leur avais dit. Que goropus mécanus, Van Gorp, était un médecin, était un grand lettré. C'était d'ailleurs le médecin de Philippe II. C'était pas du tout un rigolo, parce qu'il avait avancé qu'une des plus vieilles langues du monde était le flamand. Alors ça, vous trouvez ça dans tous les histoires de la linguistique, que Bécanus est ridicule avec son idée que Adam parlait flamand. Il n'a jamais dit ça vraiment. Mais il prétendait que le flamand était une langue aussi vieille que, ou du moins les langues germaniques, avaient des racines aussi anciennes que le grec et le latin. C'était une revendication régionaliste, enfin, ou patriotique, nordiste, pour s'opposer à tous ceux qui prétendaient que le latin avait créé toutes les langues du monde, etc., ou le grec, enfin, il y avait la Renaissance. Donc c'était une espèce de militant comme ça, très goropius mécanus. Eh bien, assez bizarrement, on n'a jamais remarqué que ce goropius mécanus avait une fille qui est devenue, alors qui était soignée par Tulp, parce qu'elle attrapait un cancer du sein. C'est une de ses personnalités, la fille de Bécanus est une des personnalités qui attrapait un cancer à l'âge classique, quoi, on va dire, en quelque sorte. Alors j'ai raté la photo. Ah, j'ai oublié de la mettre, ou quoi? Ah oui. De ce bon Bécanus, quoi. Pour vous dire, et c'est précisément chez Ramazzini que j'ai trouvé ça. Cette mention qui dit, mais oui, les femmes qui n'ont pas de vie sexuelle courent le risque davantage. Voyez, la fille de Bécanus, c'est à cause de ça qu'elle est morte. Alors, j'arrive évidemment au bout avec tout ça, hein, parce que le XVIIIe siècle, vous l'imaginez, Diderot, qui écrit La religieuse, qui plaide contre les malheurs des jeunes filles enfermées au couvent, etc. Je ne sais pas où il a dit quelque part, mais je préjugerai qu'il a dû le dire, que en plus de ça, elles mettaient leur santé en danger. Et alors, bien entendu, on invitait, c'était une sorte de prévention, que d'avoir une vie sexuelle assez libre, etc. Ce que je vous dis là n'est pas accepté par tous les historiens. Certains disent qu'au contraire, avec le XVIIIe siècle, on a commencé à poindre ce qui sera le sentiment du XIXe siècle, n'est-ce pas? Où, vous savez, au XIXe siècle, on change du tout et tout, hein. Ça devient très rigoureux. Autant au XVIIIe siècle, par exemple, on se baignait dans les rivières, dans la Meuse, etc., tout nu, jusqu'à une certaine année, comme dans la Seine, et puis à un moment, on prend des dispositions, il faut que les gens s'habillent, quoi. Il y a un retournement déjà au XVIIIe siècle, qui apparaît dans certains... C'est quand j'ai fait du folklore autrefois, je me souviens de ça, il y a ce retournement. En même temps qu'il y a un retour de la... de reconquête de la foi. Hein. Ça, c'est aussi un phénomène bien connu. Donc, au fond, ici, on atteint vraiment un des éléments... de l'idéologie des Lumières qui pose problème. Alors, au fond, j'ai bouclé avec ça. En revenant à Diderot, je devrais remercier la dame qui a édité, qui est une amie de l'université à Paris, qui a édité la correspondance de Diderot, à qui j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas dans la correspondance de Diderot quelque chose qui traite des maladies? Elle m'a dit, ah oui, il y a quelque chose d'assez drôle, si on peut dire, avec... l'ami de Diderot chez qui celui-ci redoutait un cancer du sein. Alors, évidemment, je la remercie aussi, si elle me voit. Non, mais Voilà. Voilà, c'est, j'ai été un peu trop long déjà. Mais je suis à vous pour des questions, mais si je peux y répondre. Si je peux y répondre, parce que je suis un apprenti sorcier dans cette histoire.
Alors, qui désire ouvrir le bal des questions ? N'hésitez, la première est toujours la plus difficile.
Le traitement par la ciguë.
Oui.
Clairement, aujourd'hui, on n'en parle plus. À peu près à quel moment il a été abandonné ? On a une idée
de ça ? Ah ben écoutez, en réalité, il a été recyclé, il s'est recyclé chez les homéopathes. Pas pour guérir le cancer, mais pour... il occupe encore une place importante, j'ai vu ça dans les dans l'homéopathie, mais à la fin du XVIIIe siècle, j'ai plusieurs témoignages de savants, notamment Fourcroy, etc., qui disent que c'est de la fantaisie et que donc on a abandonné, mais ça a quand même duré une trentaine d'années, quoi que. Ah oui, de 1760 à la Révolution, quoi. Ça a été c'était. Et alors, on comprend pas comment ça se fait que dans un certain nombre de cas. Ils disent que ça marche.
Oui, ça c'est une question évidemment qui vaut pas seulement pour la ciguë ou le cancer au 18e, oui. Mais tant qu'on ne fait effectivement pas d'enquête médicale, etc., approfondie, oui. Relativement complète. Bon, qu'est-ce qu'on a pour dire ça marche ou ça marche pas ? Le témoignage d'un médecin qui dit ça marche et puis son voisin qui dit tout compte fait ça marche pas.
Absolument. Non, mais j'ai lu ça dans la presse il y a quelques jours, que les chercheurs américains, vous l'avez vu comme moi probablement, que les chercheurs américains, après des études statistiques nombreuses, étaient incapables de dire par exemple quel était le degré de nocivité du tabac, quoi. Qu'après tout, on ne voyait pas. Enfin, je sais pas. Ça me semble un peu gros comme.
Oui, ça, c'est gros.
Oui. Ah ouais. Hein. Mais malgré tout, sur les causes, je crois quand même. C'est monsieur. Écoutez, je vous invite, d'ailleurs qui viendra pas très loin, à poser vraiment la question, justement, à monsieur Jacques Roissy. Que j'ai invité en Belgique à donner quelques conférences, et il en donnera une à Namur. Non, c'est moi, Bruxelles. Bêtement. Oui. Oui. Alors qu'il aurait été bien. Enfin, non, il est très content. Oui, c'est comme ça. Dans le programme, il est à Namur. Dans le programme, il est à Namur. Au mois de mars. Et lui, alors lui, il a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire du cancer. Notamment, il vient d'en sortir un, là, pour le moment, en septembre de l'année, en septembre dernier, quoi. Et lui, alors là, il connaît ça. Je tire beaucoup de ce que je vous dis de chez lui, quoi. Oui, au mois de mars. Et moi, j'en donne une aussi à Bruxelles. 8 jours plus tard. J'espère être un peu plus informé, un peu plus sûr. Mais ce n'est pas sûr.
Quelqu'un désire intervenir, Anne ?
Oui, je voulais savoir comment venait l'idée d'utiliser la belladone ou la ciguë. Est-ce qu'un médecin imagine comme ça ou est-ce qu'il y a toute une réflexion là derrière et l'idée que c'est un poison qui conduit à la mort peut aider ou comment est-ce que ça se passe ?
C'est-à-dire, ce n'est pas très clair, hein. Il n'y a pas vraiment de texte qui explique vraiment. Mais on peut supposer que c'est, on peut déduire qu'il y a l'idée de soigner le mal par le plus grand mal, quoi. Et en tout cas, c'était déjà utilisé pour calmer les douleurs chez les Grecs, dans l'Antique, chez Hippocrate, etc. Étant en même temps, d'ailleurs, Hippocrate, par exemple, dit que quand le cancer est déclaré ulcéré, c'est trop tard. D'ailleurs, c'est leur avis général, sauf chez Galien, où c'est un peu plus compliqué. Et même chez les Arabes de l'an 1000, du Moyen-Âge, ils disent, dès qu'à certains, à partir d'un certain degré, vous ne pouvez qu'alléger. Il n'y a plus rien à faire. Et les Anglais, il y a aussi une dame qui a écrit un livre en anglais sur les récemment, il y a 2-3 ans, qui fait un rapport. Alors, sur les Anglais, vraiment, et eux, ils connaissent aussi la thérapie par la ciguë, et certains donnent des degrés très précis. Par exemple, quand ça atteint les poumons, ils disent que c'est fini. Ça ne sert plus de soigner, etc. Elle cite des noms et des... Pour vous dire que ça devient... C'est un sujet... Moi, je ne savais pas très bien à qui ça intéressait, mais... Et je me suis aperçu que... Il y avait énormément de gens plus qualifiés que moi pour en parler, mais bon, c'est trop tard. Je pourrais peut-être revenir à mes études régionales, c'était... Hein? Monsieur Berry, c'est bien ce que je fais. C'était plus facile, c'était moins angoissant de s'occuper de l'histoire du français, un peu moins.
Une autre question?
Comment pouvait-on dire que c'est un cancer?
Pardon?
Comment pouvait-on dire que c'est un cancer sans examen complémentaire?
Quand c'était quoi?
Que c'était un cancer. Vous pouvez être sûr que c'était un cancer sans examen supplémentaire.
Ah non, mais il n'était jamais... D'après M. Rouessé, les cancers du sein, ils détectaient à coup sûr. Mais pour le reste, non. Par exemple, moi, j'ai trouvé pour le cancer de la langue, mais ils faisaient des examens. Vous savez, moi, je peux vous lire le passage où quelqu'un qui est sous-estimé, je me suis rendu compte de ça aussi, s'appelle Jean-Louis Petit, hein, c'est un de ceux qui jette le cancer dans l'eau bouillante pour voir, etc. Et il fait des... C'est avec Quesnay, hein, le même Quesnay, le fondateur des physiocrates, qui était médecin avant. On oublie qu'il avait été médecin. Eh bien, il raconte comment ils font. Avec un scalpel, ils coupent, ils font des tranches, ils décrivent morceau par morceau ce que ça fait, ce que ça sent, la couleur, ça ressemble à de la pêche, mais à la peau de pêche, mais plus blanche, enfin c'est... Oui, c'est... On s'attend pas... Évidemment, avant la cellule, avant la découverte de la... Tout ça est purement... Mais... Je dois dire que parfois, enfin, ils sont pas idiots. Et même les médecins de campagne qui font ça, quoi. Ils font ça avec un degré, avec un soin, quoi. Une constance, quoi. Ils vous décrivent ça, c'est des pages, des pages, des pages. Je ne sais d'ailleurs pas quoi en faire, d'ailleurs, parfois. Parce que moi, je commence à raconter, puis je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Je peux pas raconter, reproduire pendant 10 pages tout ce qui se passe. Et les évolutions. Ce qui ressort, enfin, comment les règles se passent avant, après. Oh, c'est horrible. Ma femme qui est dans le milieu médical me dit, mais enfin, toi qui sais même pas de quel côté elle le foie, parfois. Comment tu peux t'occuper de ce genre de choses? Je lui dis, oui, je sais pas, mais je crois que je dois le faire. Oui, c'est bien sûr, j'ai des nuits chargées, hein, parfois. Voilà.
Une autre intervention,
pardon,
un commentaire.
Tout ça, mais bon.
Oui, Myriam.
Ah oui, oui.
Donc, il semblerait que parfois on donnait le choix finalement aux malades entre la belladone ou la chirurgie.
Oui.
Et donc. Enfin, je peux imaginer que les conditions au niveau de la chirurgie, ça devait être assez terrible parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie. On faisait ça.
Ah ouais.
Et donc, si on choisissait quand même l'anesthésie, c'est parce que sans l'ablation, c'était parce que sans qu'il y ait de statistiques, on se disait quand même qu'il y avait plus de chances de guérison.
Oui. C'est-à-dire que l'ablation dominait. Mais aussi, on trouvait des instruments d'ablation qui étaient... j'ai vu ça comme ça. Ils inventaient des outils, quoi, d'ablation. Je vous en ai pas montré, mais... qui sans doute allégeaient ou accéléraient l'opération. Mais dans un cas, par exemple, je n'ai pas retrouvé celui-là. Parce que Muriel Collard m'a demandé si ma voix est... Enfin, on ne donnait pas... Travaillons ensemble. On ne donnait pas... un anesthésie, hein? Non, jamais. On ne donnait... Je ne vois pas. Mais il y a un cas où, je sais bien, le médecin a dit... C'était tellement douloureux que la femme est tombée en pamoison, enfin, a perdu. Alors qu'apparemment, elle résistait, quoi. Je sais pas.
Mais je pense qu'elle choisissait quand même l'ablation, parce qu'à mon avis, elles avaient vu des gens qui n'avaient rien fait, elles voyaient l'évolution. Est-ce que c'est familial? Si elle avait une tante, se dit, entre deux mots, risquons le coup. Je crois que c'est ça qui...
Mais certaines, mes religieuses de peau, là, ça va paraître, ça, ce machin-là à part, parce que j'en ai plusieurs, tout le temps, elles hésitent. Elles disent, non, j'ai trop peur de mourir avec la ciguë, quoi. Il y en a juste une qui dit, moi, je suis prête à tout parce que je suis bien entourée et puis que je me réjouis d'être là-haut, etc., enfin... Je crois que c'était pas le cas le plus courant. Enfin, celle que j'ai vue, c'était pas trop comme ça. Non.
Oui.
Donc vous parlez d'opération, mais est-ce que le taux de survie était significatif? Parce que il pouvait mourir d'infection ou aussi rapidement que du cancer.
Oui,
constater qu'il y avait quand même des réussites dans les...
Oui, oui.
C'est le cas.
Eh bien, écoutez, oui, c'est une des questions qui se posent. C'est que... c'est de la même manière pour la localisation, par exemple. J'ai commencé à localiser. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de cas. Mais je me suis dit, si on en avait beaucoup, on saurait, par exemple... Apparemment, il y en a beaucoup... Dans le Nord, en Bretagne, dans le Pas-de-Calais, est-ce que ça a un rapport avec l'alimentation, par exemple? C'est une des questions. L'autre question, c'est celle-là. C'est la question de la survie. Mais là, il faudrait étudier beaucoup plus de cas et voir ceux qui, par exemple, le cas d'ablation, survivent et parce qu'ils sont quand même... Ils le disent. Évidemment, ils sont fiers, dans certains cas, de dire « on l'a sauvé », quoi. Et parfois, ils donnent le détail. Ils disent « je ne l'ai pas vue depuis deux ans, mais je sais qu'elle est en bonne santé. » Ou « elle a eu des enfants depuis. » Choses comme ça. Mais c'est une question un peu statistique. Mais est-ce que ça mène à quelque chose? Je n'en sais rien. Je crois qu'il faut poser la question à des gens comme M. Rouessé ou d'autres qui eux, sont vraiment travaillent sur cette question. Et au point de vue historique, c'est très difficile. Pour le moment, je ne vois pas encore qu'on se pose vraiment la question en termes statistiques, quoi. Ou topographiques, quoi. Mais... c'est du boulot.
Oui, mais c'est pas sûr qu'on a la base pour le faire.
Non. Non. Je vais revenir au régionalia. J'aime bien Montre. J'ai des tas de trucs. J'ai des tas de choses à dire sur la vie montoise, puisque vous allez être la capitale, si vous ne l'êtes pas déjà. Hein, si.
Non.
Sur les auteurs montois, tous ceux que j'ai autrefois étudiés quand je venais ici, en bas, là, chez madame, comment ça s'appelait encore? Ancienne bibliothécaire. Comment ?
Madame Isaac.
Oh, bien avant. C'était avant Madame Isaac. Oh, c'était avant. encore. Oui.
Voilà, je pense qu'on va arrêter là.
Oh, j'étais
ce soir.
Trop long,
avant de remercier, oui. Merci beaucoup.